Chers amis, Hachem Alechem Tihyou, Léori Chemin Tomim, Shanim Nehemim. Nous poursuivons notre étude de Parashat Vaithanan. Et Zanou Bishem Adonai Osei Shamaim Vaharet. Maintenant, nous allons nous pencher sur un paragraphe intéressant qui nous concerne au quotidien, au chapitre 6, Vav, Pasuk Dalet. Nous avons Parashat Shema. Le premier paragraphe du schéma. Alors, schéma Israël, Hashem Elokeinu, Hashem Echad. Et dans cette paracha, il est dit explicitement, Ukshartam leot aliyatra, ou tout à fait, mais donc il y a la mitzvah de Tfilin. Et entre autres aussi, il y a la mitzvah de Kriyat Shema. L'obligation de lire le schéma deux fois par jour. Comme il est dit, Vayo. Tu en parleras. Signifie quand tu vas te coucher et quand tu vas te lever. La question se pose après. Il dit, et après il dit, il y a ici a priori au moins trois mitzvot obligatoire, mitzvot agouf, kriyat shema, anahat tfilin et mezouza. La question se pose, c'est que le sefer Devarim n'a été dit que le dernier mois des 40 ans dans le désert. Donc Moshe Rabbeinu, elle est à Devarim, les paroles de Moshe, il est dit au début de Devarim que c'était Rosh Chodesh Shvat, la dernière année, donc de ce moment-là jusqu'au moment où Moshe Rabbeinu quitte ce monde, il y a 36 jours. Donc c'est juste pendant cette courte période que tout le Sefer Devarim est dévoilé. Et s'il en est ainsi, nous avons un vrai problème, une vraie question qui se pose à nous. Est-ce que, ou bien comment, la question se pose dans les Rishonim et dans les Aharonim, est-ce que Am Israël a accompli ces mitzvot-là 40 ans dans le désert? Ou comment ont-ils... est-ce qu'ils étaient dispensés de les accomplir, puisque les textes de ces parachotas n'ont pas été donnés? Est-ce qu'ils les connaissaient et ils les pratiquaient de manière par tradition? Ou bien ils ne les faisaient pas? Donc c'est la question, elle est entièrement ouverte. Donc, cette question-là, elle est soulevée dans nombre de poskim. Le Ramban, dans son introduction au Sefer Devarim, soulève certains points. Le Radbaz pose des questions. Donc, c'est une vraie discussion, un vrai sujet. Il en va de même pour dans le deuxième chapitre. Comment est-ce que dans le deuxième chapitre, le deuxième paragraphe de Kriyat Shema, lui aussi, il n'est pas donné là, il est donné par Parashat Ekev un peu plus loin. Alors comment on comprend ça? On va voir ce que dit le Mabit dans son livre Bet Elohim. Si nous disons, dit le Mabit, que le Kriyat Shema a été dit que maintenant, donc dans le Sefer Devarim, mais qu'avant cela, il n'y avait pas de dévoilement de ce paragraphe. Donc, je n'ai pas mentionné avant. Cela signifie que toute la génération du désert n'ont pas lu le Kriyat Shema. Et ils n'ont pas mis les tefillin. Et ils n'ont pas accompli la mitzvah de Mezouza. Pour la mitzvah de Mezouza, il y a un autre problème qu'on pourra... peut-être soulevé plus tard, à une autre occasion. Est-ce que la question se pose dans Mezouza, est-ce que dans les tentes, ou bien dans les soukottes qu'ils ont fait, est-ce que ça s'appelle Dirat Keva? Parce qu'on ne peut, si on a une tente, on ne met pas une Mezouza sur une tente, parce que la tente c'est Dirat Ara, il faut que ce soit une maison fixe, dans la souka par exemple, quand on fait la souka pour 7 jours, on ne met pas de Mezouza. Il n'y a pas de Hayov Mezouza dans ce cas-là. Donc il faut une maison fixe. Est-ce que la tente dans le désert, leur tente ou leur demeure était ce qu'on appelle Ohalecha Israël? Alors est-ce que ça s'appelle une demeure fixe ou une demeure temporaire? Parce que c'est pas eux qui décidaient, les ministères ne décidaient pas de se fixer à tel endroit pour un temps. Tout dépendait de la volonté de Dieu. Quand la nuit s'est levée, il changeait de lieu. Et il y a des endroits où ils sont restés pendant 1 an, 2 ans, plusieurs années. Donc là-bas, la question se pose aussi. La même question, et aussi la question, est-ce que la tente est appelée Dirat Keva ou Dirat Arad? Donc revenons à ce que nous dit le Mabit. Si nous disons que, donc ils n'ont pas lu Kriyat Shema pendant 40 ans dans le désert, ils n'ont pas mis les tefillin. Kevan Shelo Uzkeru Elo Parashiyot, Rak Besof Arbaim Shana. Donc puisque c'est marqué ici, avant ça il n'y avait pas. Alors il ajoute là-bas que dans les 10 commandements, voir Nirmezo, voilà que dans les 10 commandements, il y a une allusion certaine, et dans les premières tables, telles qu'elles étaient écrites, telles qu'ils ont pas vues, parce qu'elles sont brisées. Alors, la deuxième table, il y avait aussi une allusion. Les 10 commandements tels qu'ils ont été dits et entendus, il y a une allusion certaine à l'ensemble de la Torah, aux 613 mitzvot. Comme ça, c'est ce qu'il dit le Mabit. Gamash, et ça c'est mentionné dans le Rama Mipano, et c'est mentionné de manière pratiquement explicite dans l'Yerushalmi. Donc il y a une allusion certaine. De la même manière que lorsque nous lisons le schéma, il est dit qu'il faut le lire avec Kavana. Alors la Kavana qu'il faut avoir dans l'ensemble du schéma, c'est d'introduire la. D'introduire les 10, la série, c'est-à-dire les 10 commandements dans le Kriyat Shema. Il faut savoir où ça se trouve, chaque commandement. Quand il dit tu ne voleras pas où c'est marqué, par exemple. Quand il dit tu honores ton père et ta mère, où c'est marqué dans le Kriyat Shema. Donc il faut le savoir. Et c'est ça la kavana qu'il faut introduire. La même chose, de même, quand nous lisons les 10 commandements, il faut savoir trouver le remez, l'allusion qui est faite à l'ensemble des 613 mitzvot. Et en particulier à la lecture du schéma. C'est ce que dit le Mabit. Des coulames. Alors c'est ce qu'il dit ici, je me suis interrompu. Veya im shamwa im ki im bemishne Torah. Ve katav sham be'aseret adibrot kvar nirmezu kol haTorah kula. Donc c'est ce qu'il a dit. Dans les 10 commandements, dans les 10 commandements, l'ensemble de la Torah est mentionné. Même ce qui va être dit plus tard, béarvote-moi. Et il ajoute le Mabid, et les gens particuliers, ce qu'il appelle Yehide Segula, certainement, Yehide Segula ont accompli toutes les mitzvot, Kriyat Shema et Tfilin. Pourquoi? Parce qu'ils savaient, ils le savaient. Tout le monde n'était pas, c'est-à-dire qu'il n'a pas une obligation absolue de le faire, mais il savait le faire, donc il accomplissait de même. Alors, il en va de même pour Tulin. Alors, il y a maintenant, certes, alors il y a d'autres qui disent que non, ils étaient empêchés d'accomplir. Donc, et ça, c'est intéressant, ça reviendrait à dire qu'on est resté 40 ans dans le désert. Et cette mitzvah-là ne pouvait pas être accomplie ou n'était pas accomplie. Alors, d'autres disent que, par exemple, pour le tfilin, il n'y avait à leur époque. À quel moment la mitzvah de tfilin a pris toute sa l'obligation de mettre le tfilin a été entière? C'est lorsqu'ils sont rentrés en Eretz Israël, parce qu'il y a marqué dans les Tfilim, dans une des parachutes du Tfilim, les deux premières, quand Hachem t'amènera en Eretz Kenan. Donc la mitzvah de Tfilim ne débute que lorsqu'ils rentrent en Eretz Israël. C'est pour cela qu'ils n'avaient pas l'obligation et le besoin, dirions-nous, d'accomplir la mitzvah Tfilim. Mais Kriyat Shema, peut-être qu'il fallait accomplir. Mais non, dans le Kriyat Shema lui-même, peut-être de là, on aurait une preuve que la mitzvah de Kriyat Shema, c'est quand il est dit, ou dit Bartabam, Beshiftecha, Bevetecha, Overtecha, Vadeler, Ushorbecha, Ovukumecha, il ne s'agit pas de schéma, il s'agit peut-être de n'importe quelle lecture. C'est-à-dire, on peut accomplir Bedivrei Torah. Il y a une obligation, de, le matin et le soir, de lire Divrei Torah, avant d'aller dormir, et au moment où de se lever, au moins de dire un Divrei Torah. D'ailleurs, la Gemara dans Mnahot, elle nous mentionne qu'il y a une chita dans la Gemara, que comment les gens accomplissent la mitzvah d'étudier la Torah de manière continue. Alors c'est en disant le Kriyat Shema le matin et le soir. Le matin, au moment où le soleil se lève, là, quand ça fait l'intermédiaire, juste avant le net, donc il lisait le Kriyat Shema juste avant le net, donc c'est le moment où ça relie la nuit et le jour. Et la même chose à la Shkia, il lisait Kriyat Shema à la Shkia, donc quand le jour et la nuit se reliaient, il lisait Kriyat Shema. Et avec ça, ils accomplissaient la mitzvah de continuellement lire la Torah. Donc on voit que le Kriyat Shema n'est pas spécifique Kriyat Shema, c'est d'après cette chita, d'après une chita, il y a des Rishonim qui pensent que Kriyat Shema, il n'y a pas de... le Kriyat Shema que nous avons est institué par un Rabbanan, n'est pas une mitzvah minatora. Donc cette mitzvah-là, elle est intéressante à analyser et à comprendre comment ont-ils pu accomplir où il y a une dimension, ils n'avaient pas besoin de l'accomplir. Et dans le Tanya, c'est explicitement indiqué, le Tanya, l'écoute à Marine, il dit que pourquoi, quelle est la raison pour laquelle Moshe Rabbeinu, dans le dernier livre de la Torah, a ordonné le Kriyat Shema à la génération qui va rentrer en Eretz Israël, et de lire à deux reprises, tous les jours. Donc c'est, et on voit qu'il explique la raison. La raison, c'est qu'à présent, on rentre en Eretz Israël. C'est-à-dire que, alors de ce que lui dit, il est explicitement marqué de ses mots. Il est explicitement marqué que c'est seulement ce qui rentre qui l'accomplisse. Et dans un autre livre, il est dit que puisque la Gemara dans Brachot, elle dit, on a voulu introduire la paracha de Balak dans le Kriyat Shema. Et Mipnema lo kavua, pourquoi on lit pas paracha de Balak dans le Kriyat Shema? Parce que ça fait trop long. Mishom Torah Tibur, c'est trop long. Alors c'est de cette Gemara la Mashma. Que comment ils lisaient avant? Alors ils lisaient parachat de Balak. C'est-à-dire que la parachat de Balak s'est déroulée, donc quelques mois avant la fin du désert, quelques mois, c'est dans la dernière année. L'histoire de Balak s'est produite à la fin des 40 ans, dans la dernière année. Alors c'est à partir de là qu'ils ont commencé à lire Shema. Et avant ça, qu'est-ce qu'il lisait? Il lisait rien. A priori. Bon, est-ce que la question se repose? Comment il savait le schéma? Donc, alors, on peut dire de manière claire que si, comme nous l'avons précisé plus haut, que dans les 10 commandements, il est fait allusion certaine au Kriyat Shema, il est possible que le texte soit oral, transmis oralement, sans qu'il y ait un texte écrit, puisqu'il ne sera écrit qu'à la fin. Et à ce moment-là, les gens ont appris. Et il est fort possible, comme le dit Rabbi Shimon Bar Yochai dans la Gemara de Menachot que j'ai mentionné plus haut, qu'il lisait le Kriyat Shema le matin et le soir afin d'accomplir Imlo Bereti Omo Balachokot Shema Yivares Osamti, pour accomplir un mitzvah continue de l'étude de la Torah, comme nous l'avons expliqué. Et que c'était une transmission de tradition. C'est-à-dire, c'est transmis oralement, jusqu'au moment où ça a été inscrit dans le texte un mois avant l'entrée en Eretz Israël. On peut dire, mais ce qui suscite l'intérêt, c'est que dans le désert, il n'y avait pas cette nécessité-là. C'est-à-dire qu'ils étaient dans un cocon, les nuées, ils étaient dans une autre dimension spirituelle où ils vivaient la réalité de la présence de Dieu, donc ils n'avaient pas besoin d'accomplir a priori telle ou telle autre mitzvot. C'est quand ils vont se détacher de ça et qu'ils vont revenir dans une dans dans une réalité physique de ce monde que les mitzvot sont une nécessité pour nous encadrer, pour nous permettre de sanctifier la matérialité qui nous entoure, pour nous permettre de sanctifier le quotidien, le hol, les kadesh et hol. Et c'est ça l'essentiel de Kriyat Shema, a priori. Et l'essentiel de Kriyat Shema aussi, c'est de la kavana. Et il faut véritablement faire un effort sur l'intention. Donc quand on arrive juste avant la lecture du schéma, on finit la bracha. Il faut s'interrompre et se concentrer sur l'intention, avoir l'intention, la volonté d'accomplir, la volonté de prendre sur soi le joug divin, puisque l'avantage qu'il y a dans le premier verset, c'est qu'il y a non seulement que c'est le premier verset du schéma, que c'est le premier paragraphe, mais aussi il y a Kabbalat Ol Malchut Shamayim. Donc globalement, s'engager à servir Dieu et prendre le joug de son règne, de sa royauté sur nous, il faut comprendre. Schéma Israël, schéma, ça veut dire s'engager. Israël, c'est moi, je m'engage, tout comme Yaakov Avinu s'est engagé. Hachem, Yudke Vavke, c'est la relation directe que nous avons avec Dieu. Elokeinu, parfois, cette relation-là, elle nous sanctionne. Le Midat Hadin s'applique sur nous parce que pour telle ou telle autre raison, mais nous l'acceptons et on ne le comprend pas toujours dans ce monde là dans Galout, comme dit Rashi sur place. Hachem Echad, toutefois le nom de Dieu est un, il n'y a pas une dualité, c'est pas deux Midot séparés, c'est Hachem Elokeinu, c'est Hachem qui ordonne à Elokeinu, à Elokim d'agir, mais c'est Hachem, il est Ehad, Zéaya Bayom Mahou, et Hachem Ehad, Ushmo Ehad, et voilà, en ce temps-là, à la fin des temps, le nom de Dieu sera un, Zéaya Hachem Ehad, Ushmo Ehad, lui sera un, sera dévoilé en tant qu'un, c'est pas qui aujourd'hui, il est deux. Lui sera, comme la Gemara s'interroge, Hachem Ehad, Ushmo Ehad, son nom et lui seront un seul nom. C'est-à-dire qu'on ne verra plus les attributs. C'est le jaillissement du Shem Havayak. Baruch Hu sera de manière entière et complète. Baruch Adonai Eleolam. Amen ve Amen.